chez nous sur Radio Armada.
Au cœur de l'histoire, tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Armada et sur le site www.radioarmada.fr.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité ce soir dans cette émission Au cœur de l'histoire qui est un rendez-vous d'échange et de débat sur Radio Armada. C'est le dernier de l'année, le dernier numéro de l'émission de l'année 2020. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver comme j'aime souvent le dire. Depuis le démarrage de cette émission sur Radio Armada, ça a toujours été un grand succès grâce à vous, les auditeurs et les abonnés de Radio Armada et les auditrices aussi. Et puisque vous nous suivez un peu partout dans le monde, ça fait plaisir que vous soyez toujours à l'écoute de cette émission. Alors, ce soir, comme thème à débattre, la jeunesse africaine est-elle porteuse de changements pour l'Afrique ou pour le développement de l'Afrique? Alors, parler de la jeunesse africaine est complexe, tant elle est diverse. Le continent africain n'est pas un bloc homogène, mais est constitué d'une large mosaïque de pays, d'une grande diversité, du fait de plusieurs facteurs incluant la situation géographique, le climat, la population, la langue, la croissance, les ressources naturelles, la gouvernance, les contextes politiques, socio-économiques et culturels, les ressources naturelles, etc. La jeunesse ne se résume pas à une catégorie de personnes définies selon l'âge. Les jeunes ne constituent pas un bloc homogène, mais constituent une diversité plurielle qui fait de plusieurs facteurs incluant le genre, le lieu, la vie urbaine ou rurale, la langue, l'ethnie, la situation socio-économique, les niveaux d'instruction, etc. Avec 2 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique a la population la plus jeune au monde selon le rapport Perspective économique en Afrique établi en 2012, notamment par la Banque africaine de développement, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la Commission économique pour l'Afrique, CE, et l'Organisation de coopération et de développement économique des pays industrialisés, OCDE. Ce chiffre devrait doubler d'ici 2045. Pour parler de cette jeunesse africaine, je reçois ce soir dans cette émission, dans son dernier numéro Au cœur de l'histoire, Kony Issa Sankara. Monsieur Kony est ivoirien, juriste de formation, responsable politique au sein du FPI, Front Populaire Ivoirien, mais aussi il a été syndicaliste au niveau des étudiants. Tout ça, c'est en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons aborder ces questions de la jeunesse, l'apport, le rôle de la jeunesse pour le développement du continent africain. Alors, je vais laisser le soin lui-même de se présenter davantage aux auditeurs de Radio Armada. Bonsoir, Monsieur Kony.
Bonsoir.
Comment ça va?
Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour parler de l'Afrique et de la jeunesse africaine, des problèmes sociopolitiques, des problèmes socio-économiques de notre cher continent. Alors, comme vous l'avez introduit, je suis M. Kony Issa, communément appelé Sankara. Ce nom, je le détiens depuis ma jeunesse étudiantine et scolaire. Un nom qui m'a été donné du fait que j'ai pris pour Thomas Sankara comme exemple. J'ai aimé son combat pour l'Afrique, j'ai aimé son combat pour son pays. Et donc, ce nom m'a été donné par mes amis.
D'accord.
Alors, donc, je suis effectivement responsable du FPI. En France, ici, je suis le directeur de cabinet du secrétaire général adjoint, chargé donc des représentations de la diaspora.
D'accord.
Et donc, très souvent, je le représente dans beaucoup de manifestations ou alors de rencontres.
D'accord.
Et voilà. Me voici un peu présenté brièvement. Et puis voilà. Maintenant, je suis à votre disposition.
Voilà. Alors, Monsieur Koné, la jeunesse africaine, vous êtes aussi panafricaniste, un panafricaniste convaincu. Vous portez un regard sur la vie et la situation africaine, qu'il soit politique ou sociale. Quelle est votre analyse sur le continent aujourd'hui?
Mon analyse ou mon constat sur le continent, on va aller très vite parce que on a beaucoup de choses à dire. Le panafricanisme, effectivement, j'y adhère depuis que je me fais appeler Sankara.
D'accord.
Pour moi, effectivement, l'Afrique doit pouvoir se souder, former un grand bloc pour faire face aux défis du monde, pour faire face à ceux qui pillent pendant tout le temps nos richesses sans contrepartie. Et donc, l'Afrique doit pouvoir s'unir, l'Afrique doit pouvoir se souder, l'Afrique doit pouvoir aller de l'avant avec tous ses fils et toutes ses filles. Maintenant, il y a un constat à faire, et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que nous soyons unis. Il y a deux blocs qui se dégagent pratiquement en Afrique, par rapport en Afrique subsaharienne. Ceux qui ont été colonisés par la France et ceux qui ont été colonisés par les Britanniques.
D'accord.
Vous ferez le constat avec moi que les pays colonisés par la France sont pour la plupart des pays instables. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Burkina. En dehors du Sénégal qui a un semblant de stabilité, la plupart des autres pays francophones de l'Afrique de l'Ouest sont instables. Par contre, si vous prenez les pays anglophones, le Ghana fait preuve de maturité démocratique. C'est l'exemple aujourd'hui. Le Nigeria aussi fait preuve de maturité politique. Mais le problème qu'il y a au Nigeria, c'est Boko Haram. Mais ça, on ne peut pas l'imputer à la gouvernance, de quelqu'un, parce que c'est partout maintenant. Donc, ça peut vous dire que sur le plan politique, nos pays francophones sont beaucoup instables. Et cela par le fait du colonisateur, on y reviendra.
D'accord.
Du point de vue social, il y a eu tellement de mouvements dans la région ouest africaine que je ne pense pas que les peuples s'en veuillent. C'est plutôt les politiques qui cherchent très souvent à opposer les peuples.
D'accord.
Et nous devrions, nous autres, et comme le thème c'est de la jeunesse, nous devrions nous autres faire que ce régime souvent de l'autre, ne soit plus de notre époque. Donc, aujourd'hui, sur le continent, ça doit être une priorité. Il ne faudrait plus qu'on voit le Guinéen, on dit, bon, c'est un Guinéen, un Burkinabé, un Ivoirien, ainsi de suite. Il faudrait que nous puissions arriver à faire ce bloc autour de nos différents pays. Même si aujourd'hui, il serait difficile de supprimer, donc, les frontières.
Vous parlez de la solidarité entre
les États. Voilà, entre les États, et que les États puissent se souder.
D'accord.
Que les ressortissants de ces États-là puissent bouger librement dans l'espace CEDEAO pour s'installer là où ils veulent.
D'accord.
Sans contrainte.
D'accord. Alors, comme vous le savez, on parle de la jeunesse africaine, mais qui parle le rôle de la jeunesse africaine pour le développement du continent parle d'abord de la stabilité du continent. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la preuve est que la Côte d'Ivoire traverse une crise, même si on sait la dernière élection contestée par la majorité de la population ivoirienne. Nous avons vu le même cas, le même scénario en Guinée, Conakry, avec l'élection également contestée du professeur Alpha Condé, qui d'ailleurs a prêté serment hier pour un troisième mandat. Aujourd'hui, quel doit être le véritable rôle ou le véritable défi à relever par la jeunesse africaine?
Le véritable défi, et l'un des défis de la jeunesse africaine, c'est de faire ancrer la démocratie dans nos pays. C'est de faire comprendre à nos dirigeants que s'il n'y a pas de démocratie, bien évidemment, il n'y aura pas de développement.
Oui.
La jeunesse africaine ne peut pas accepter aujourd'hui de se faire manipuler par des hommes politiques qui veulent forcément rester au pouvoir. En Côte d'Ivoire, les mandats étaient limités à deux. Ça, tous les juristes de Côte d'Ivoire, le professeur Bléau Martin, ceux-là même qui ont confectionné cette constitution, c'est-à-dire le professeur Ouraga Obou, M. Bakongo, le ministre de la Justice, et tous ils ont été unanimes que cette constitution-là ne permettait pas au président sortant, donc M. Ouattara, de se présenter. Mais il a fait un passage par force, malgré les restrictions juridiques qui lui sont imposées par, comme on appelle le conseil, la constitution.
Par la constitution ivoirienne.
Alors, le rôle là des jeunes, c'était de lui faire comprendre que ça ne doit pas passer, ça ne doit pas se passer. Mais malheureusement, il y a des jeunes qui se sont pris aux autres jeunes qui manifestaient librement. Et on a vu des images très atroces. Et moi, je pense qu'il nous reviendra aux jeunes, il nous reviendra aux populations africaines de pouvoir faire payer ces gens d'action à nos dirigeants et de pouvoir désobéir à ce qu'ils nous envoient tuer nos propres frères, nos propres parents. C'est la même chose qui s'est passée en Guinée, vous l'avez dit. Alain Condé ne pouvait pas faire un troisième mandat.
Oui, c'était aussi le mandat où c'est 2 ans.
C'est 2 ans. Oui.
Oui.
Non, 2 mandats.
2 mandats, oui. Deux mandats, oui, je voulais dire. Deux mandats. Pour moi. Ouais. Donc non, renouvelable. Bah, après, il peut se présenter après un autre pouvoir.
Voilà.
Mais en tout cas, la constitution autorise à 2 mandats et, présidentiels.
Oui, effectivement, en Guinée, c'est 2 mandats consécutifs et il doit partir.
Oui.
Et maintenant, s'il veut revenir après un mandat, il pourra encore se présenter. Ça, c'est en Guinée. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. La Côte d'Ivoire, c'est un mandat renouvelable une seule fois.
D'accord.
Donc, il ne faut pas que nos dirigeants prennent en otage nos populations. Regardez au Sénégal. Depuis Diouf jusqu'à aujourd'hui, il y a une stabilité parce que Ouad a voulu tripatrier aussi la constitution pour se maintenir. Mais le peuple a dit non. Aujourd'hui, Macky Sall est là. On voit que le Sénégal est stable. Tant que nos pays ne comprendront pas ça, tant que nos dirigeants ne comprendront pas que la stabilité du pays engendre le développement du pays, eh bien nous allons rester dans la situation où nous serons obligés tout le temps de décompter les morts. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'acceptable.
Alors, au fait, tout le problème aujourd'hui, on parle de la prise de conscience des jeunes ou de la jeunesse africaine. Mais pourtant, il y a des organisations, des jeunes qui se battent, qui luttent pour instaurer la démocratie en Afrique. Mais pensez-vous qu'ils sont suffisamment outillés quand on sait qu'ils n'ont pas, cette jeunesse n'a pas la main libre et qu'il y a la politique ou les politiques qui sont là derrière pour étouffer les différentes initiatives de ces jeunes.
C'est pour ça que je disais toujours, tout de suite là, qu'il faut une réelle prise de conscience. Et qu'on sache ce qu'on veut.
Mais comment cette prise de conscience peut se matérialiser, puisque la volonté quand même est là, mais vous savez, le pouvoir africain, comment ça se passe?
Oui, la volonté, quand on l'a, on use de tous les moyens pour mettre en pratique ce qu'on veut. C'est ça. Tant qu'on va rester là, à faire de gros discours, de grands discours, sans vraiment faire la pratique, on ne s'en sortira pas. Et donc, cette pratique commence d'abord par la sensibilisation des populations.
D'accord.
Il faut sensibiliser les populations. Toutes ces organisations non gouvernementales qui parlent de démocratie, qui veulent que nos chefs d'État, nos pays pratiquent la démocratie, il faut commencer d'abord par former et par éduquer la population au respect. Quiconque ne respecte pas les lois que nous-mêmes nous sont données, n'est pas démocrate. N'est pas démocrate et la constitution qui est la norme suprême doit être respectée, ne doit jamais être violée. Parce que toutes les guerres qu'on constate chez nous sont issues du non-respect des constitutions. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on restera toujours, et comme je l'ai dit tantôt, à compter nos morts. Et ce n'est pas acceptable au XXIe siècle.
Ce n'est pas acceptable au XXIe siècle. Voilà, j'insiste sur la question de la jeunesse aujourd'hui. Je sais, j'ai bien suivi ces derniers temps l'évolution, la situation en Côte d'Ivoire aussi, mais en Guinée. Je prends par exemple en Guinée, il y a un mouvement de voilà, qui s'est constitué en partie, pardon, en société, voilà, partie civile également, qui essaye, qui souhaitait être la voix du peuple avec le mouvement Front National pour le développement, pour le respect de la Constitution, pour la défense de la Constitution, autant pour moi. Cette organisation a été étouffée par le pouvoir, hein, en arrêtant, en emprisonnant arbitrairement les cadres de ce mouvement qui manifestait, qui s'opposait au troisième mandat. C'est le même scénario aussi qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec des organisations, des groupes qui s'opposaient au troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara. On sait comment ça s'est terminé. Il y a beaucoup qui se sont retrouvés en prison et jusqu'à présent, il y a des gens qui sont en prison.
Plus Chérif Balé, oui, par exemple. Oui, effectivement, ce que vous dites, c'est ça. Les présidents africains ou alors les dirigeants africains ont cette tendance d'étouffer toute volonté de manifestation démocratique. Mmh. Ils ont tendance à emprisonner tout le monde à partir du moment où quelqu'un ose, donner un son de cloche différent. Mmh. Ce que moi je propose, c'est que, vous voyez, que ce soit en Guinée, mmh, que ce soit en Côte d'Ivoire, si ces mouvements-là s'étaient pris plus tôt, en sentant venir la volonté de ces deux présidents-là à vouloir se présenter, si on avait commencé à sensibiliser la population, les populations, je pense qu'elles auraient été plus aguerries pour savoir que l'acte que le professeur Condé va poser, ou alors le président Ouattara va poser, seront des actes qui seront anticonstitutionnels et qui ne seront pas acceptables. L'opinion sera déjà prête. Et le problème aussi, c'est ce genre d'opinion, il ne faut pas que les gens se disent qu'elles sont aussi inféodées aux partis d'opposition. Mmh. Les partis d'opposition sont dotés d'organes. Au FPI, nous avons la GFPI. Nous avons l'OFPI. Mmh. Nous avons des organes. Mmh. Maintenant, s'il y a des gens qui sortent, qui décident de faire, de prôner la démocratie et tout, qui ne sont pas encartés dans un parti politique, ils sont plus écoutés que ce soit la jeunesse du FPI qui viennent pour faire des séminaires de formation sur la démocratie. Or, si c'est des organisations qui sortent de la société civile, je pense que ce sera plus crédible. Le parti politique va s'occuper de son candidat, de faire la promotion de son candidat. Le parti au pouvoir continue à faire la promotion de la gestion de l'État. Et puis, la société civile, si elle est assez forte, c'est elle qui va, pouvoir imposer, infléchir la position du gouvernement. Mais souvent, quand elle se prend très tard, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, bien évidemment, le dictateur est déjà prêt à agir. Donc, même si tu dis des choses sensées, des choses qui peuvent faire évoluer le pays, des choses qui peuvent faire avancer le pays, quand le dictateur, lui, il a déjà pris sa décision, je serai candidat.
Parce que c'est des décisions unilatérales.
Voilà.
Il n'y a rien de légal.
Non. Il n'y a rien de légal dedans. Quand un président dit que lui connaît le droit que tout le monde, c'est-à-dire, c'est plus la peine d'avoir une faculté de droit à l'université d'Abidjan. Parce que du coup, si un professeur de droit constitutionnel parle, tu dis non, moi je connais le droit que toi, alors que tu es économiste de formation. Ça là, ça n'a pas de sens.
Mais comment les parties civiles en Afrique peuvent être aujourd'hui fortes, peuvent avoir la voix aujourd'hui, peuvent faire entendre le peuple quand on sait que les décisions sont toujours prises unilatéralement, comme quelqu'un souvent le dit en Afrique, on n'a pas de société civile, de véritable société civile, on n'a pas de véritable organisation la masse populaire, mais plutôt c'est des cellules tout simplement rattachées dans les présidences.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous dites la même chose que moi. Moi, je disais tout à l'heure, pour que la voix de la société civile soit vraiment entendue, il faut qu'elle soit véritablement une société civile.
D'accord.
C'est-à-dire que les responsables, les différents leaders ne soient encartés dans aucun parti politique. Pourquoi les Burkinabés ont pu se faire entendre pour faire partie Blaise? Parce que le mouvement de changement là est parti d'abord de la base de la société civile. Elle a été rejointe après par les partis politiques d'opposition.
D'accord.
Mais alors, si vous ne pouvez pas réagir comme ça et que les sociétés civiles sont pratiquement des cellules de partis politiques ou bien des relais de partis politiques, bien entendu, vous ne serez pas audible. Vous ne serez pas audible parce que si moi je parle aujourd'hui au nom de la société civile, tout le monde dira ah non, mais tout le monde te connaît en tant que militant du FPI. Mmh. Si un autre parle, un autre qui est connu publiquement comme étant militant du RDA ou bien RHDP, c'est comme ils veulent, mmh. Lui, il ne peut pas venir se présenter au peuple ivoirien comme étant mmh. Quelqu'un de la société civile. Et c'est ça. Donc, pour moi, la société civile doit effectivement s'organiser et. Vraiment être indépendante, autonome, pour pouvoir avoir la parole nécessaire pour qu'on puisse les entendre.
D'accord. Alors, nous allons poursuivre notre série de débats avant la première pause musicale. La question que je vais vous poser, M. Kony, la jeunesse à venir du continent africain, un avenir sombre ou un avenir ensoleillé?
C'est selon, mais... Non, on ne va pas tomber dans le fatalisme. Mmh. On va se dire que après la pluie, le bon temps.
Le bon temps, oui.
Voilà. Actuellement, la jeunesse, en effet, la situation de la jeunesse n'est pas trop reluisante par rapport à la conduite des affaires de nos chefs d'État qui, non seulement, ne pensent même pas au renouvellement de la classe politique et qui veulent se maintenir jusqu'après 75 ans. Il y a des jeunes qui atteignent jusqu'à 50, des personnes qui atteignent jusqu'à 50 ans, 60 ans, et ils sont toujours considérés comme jeunes dans leur parti.
Oui.
Ça ne peut plus fonctionner. Donc, il faut que, pour que l'avenir soit ensoleillé pour les jeunes, il faudrait que les vieux sachent partir. Voilà. S'ils savent partir, à partir de ce moment, la jeunesse peut prétendre à plus de responsabilités. Mais je ne désespère pas. Je ne désespère pas, je me dis qu'il n'y a pas que dans tel ou tel secteur que la jeunesse peut réussir. Il faudrait qu'on puisse faire la promotion de certains secteurs qui sont mal exploités aujourd'hui dans nos pays. Le secteur de l'agriculture, dans le bâtiment, dans les exploitations minières, qui sont pratiquement toutes dans la main des... Des grandes firmes internationales occidentales. Il faudrait que nos pays créent les conditions pour que l'investissement puisse venir de nous-mêmes. Que ce soit nous, les jeunes, nous, les Ivoiriens, nous, les Guinéens, nous, les Sénégalais, nous, les Maliens, nous puissions produire et ventiler notre production chez nous. Ça donnera du travail aux jeunes, ça donnera les pays seront moins endettés et puis l'emprunt sera au niveau local. Mais si vous venez emprunter tout le temps avec la France, avec les États-Unis, avec l'Union Européenne, bien avec entendu,
les institutions, les FMI,
la Banque mondiale, c'est ça avec que vous devez toujours emprunter. Bien évidemment, nos pays resteront toujours colonisés. C'est un semblant de décolonisation.
Justement, j'allais dire, ne pensez-vous pas qu'on est toujours en pleine colonisation quand on sait que il y a une mainmise. Est-ce que tu crois vraiment à l'indépendance des pays africains?
Moi, je ne crois pas du tout.
On n'est pas indépendant.
C'est une forme, ça a été changé. C'est tout ce qui a changé, c'est que les présidents des pays d'Afrique maintenant sont africains. Mais c'est pas eux qui décident. Quand on sait que le franc CFA, tout vient de la France. Mais s'ils gèrent ta monnaie... Le trésor public. Si tu gères ton trésor public et tu as des devises... Ici, dans leur banque, la Banque de France. Mais tu fais un emprunt, l'emprunt que tu fais avec cette Banque de France. Mais c'est ton argent qui est là-bas, que ils te donnent encore en prêt et tu dois le rembourser avec intérêt. Alors que c'est ton argent. Hein. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés. Alors que si nous avions, nous, l'espace UMOA, l'espace CDAO, on avait une monnaie commune, on avait une banque centrale commune, à partir de ce moment-là, on avait enlevé une grosse épine de notre pied. Ça, c'est l'une des choses. La seconde des choses, comme je le disais, il faut que on crée du travail pour les jeunes. Il faut que les jeunes aient du travail pour que les États aient une bonne croissance. Il ne faut pas que ces vieux qui nous dirigent là pensent que à part eux, il n'y a plus personne. Condé, il a quel âge?
Là, c'est 82 ans, 83 ans maintenant.
82 ans, 83 ans. Qu'est-ce qu'il peut apporter encore à la jeunesse guinéenne, encore à la Guinée? Ça se trouve que c'est quelqu'un qui ne sait même pas écrire un tweet. Donc ça veut dire qu'il est dépassé par la période. Assane Ouattara a plus de 75 ans. qu'est-ce qu'il peut rapporter? Il n'a plus d'avenir, il n'a que de beaux souvenirs. Et donc, quelqu'un qui a toujours de beaux souvenirs, c'est une époque où il n'est plus rien. Donc, il doit comprendre, oui, Ouattara doit comprendre, Condé doit comprendre, tout cela doit comprendre. Et il faut que Macky Sall se mette en tête aujourd'hui que la jeunesse africaine n'acceptera pas qu'il veuille faire un autre mandat. Parce qu'on l'a vu à Abidjan aller soutenir l'investiture de Ouattara. Tout cela, il faut qu'il comprenne.
Nous avons vu certains cadres occidentaux.
Oui, justement, quand, comment on appelle ça, Jean-Yves Le Drian s'élève et qui s'en va. Mais Sarko était là.
Oui.
Mais Sarko, ça ne peut pas nous étonner. Ça ne peut pas étonner un Ivoirien que Sarko soit là. C'est Sarko qui a installé Alassane Ouattara au pouvoir. Lui et Alassane Ouattara, ce n'est pas des relations politiques, c'est des relations amicales.
D'accord.
Voilà.
Alors, comme on parle toujours de l'autonomisation ou l'autonomie du continent, comment autonomiser le continent africain? Quel rôle la jeunesse peut jouer pour le développement du continent africain? La question que j'ai aussi envie de poser, c'est justement par rapport aux chefs de l'État, aux chefs d'État africains qui, pendant les campagnes, on sait que oui, je dédie tel mandat à la jeunesse, je dédie tel mandat aux femmes. Ce n'est qu'un fait de paille, ce n'est qu'une façon de voiler leur mission, puisque en partie, dès qu'ils accèdent à la magistrature suprême de différents pays, ce n'est plus le cas.
Oui, mais ça se voit partout. Ça se voit partout. La plupart du temps, c'est des gestions claniques. C'est des gestions claniques. La plupart du temps, les jeunes même qui les aident à accéder au pouvoir sont ignorés totalement.
Tout à fait.
Sont ignorés et ils se retrouvent avec une gestion clanique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la présidence est pratiquement une affaire de Ouattara. Mm. Après, ce sera quelque... Si vous avez suivi tout dernièrement l'affaire Yodé et Siro, les deux chanteurs, mais ils ont dit, la vérité qu'ils ont dit, les gens ne veulent pas l'écouter. Mais c'est la vérité. Et ce n'est pas eux qui le disent. C'est le président Ouattara lui-même qui a parlé de rattrapage. C'est lui-même, ce n'est personne d'autre. Donc quand il dit Dieu durer les chaussées jusqu'au dernier étage, il n'y a que des Koulibaly et des Bakayoko, ça veut dire que c'est uniquement que les gens issus du nord du pays qui sont aujourd'hui privilégiés que les autres ethnies, que les Agni, que les Bété, que les Baoulé, que les Abouré, que les Dida, enfin, on a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire et ce n'est pas admissible que quand on va à un concours, quand on donne le résultat du concours, tous ceux qui sont admis ont les mêmes noms.
Alors, vous ne pensez pas que ça va être une tâche difficile pour la jeunesse africaine de jouer pleinement un rôle pour le continent? Tout d'abord, quand on sait que les chefs d'État africains ou quand on sait que la plupart des pays où les de l'Occident vivent sur le dos du continent africain, ça, est-ce que tu, avec ça, et c'est les mêmes générations qui dirigent de génération en génération le continent, puisque quand vous prenez par exemple aujourd'hui en Afrique, Macky, Alassane, Alpha Condé, à peu près c'est des gens qui se connaissaient depuis en France ici, hein, la plupart.
Ouais, mais ce que je veux dire, la jeunesse africaine dans sa majorité aujourd'hui a véritablement pris conscience de la situation. Vous savez, le président Oufo-Boigny, il avait dit une fois, nous, les pères de la nation, nous nous sommes battus pour avoir l'indépendance politique. Vous, les générations à venir, vous devez vous battre pour avoir l'indépendance économique. Et cela passe, et l'indépendance totalement passe donc par l'indépendance économique. Tant que les pays africains ne seront pas autonomes économiquement, eh bien nous allons subir toujours ce que les Occidentaux voudront.
D'accord.
C'est pour ça que, ayant pris conscience de ça, aujourd'hui nous voyons beaucoup de mouvements panafricanistes qui naissent et dans la diaspora et dans nos pays. Il va falloir trouver un cadre, un creuset pour s'organiser normalement et pour pousser nos chefs d'État à chercher l'indépendance économique, effectivement. Ce qui donnera du boulot. Aujourd'hui, on a des économistes partout en Afrique. Mmh. On a des
c'est pas les cadres qui manquent.
C'est pas les cadres qui manquent.
Mais c'est la volonté.
C'est la volonté politique. C'est la volonté politique qui sont toujours arrimés à la puissance coloniale. Parce que je ne sais pas pour eux, est-ce que si on prend totalement notre indépendance, ou bien si on ne veut pas discuter avec eux, est-ce qu'ils ne vont pas nous enlever? Il faudrait que aussi nous jeunes, nous commençons à demander pour être indépendants aussi totalement, qu'on ne puisse plus accepter des bases militaires dans nos pays.
Comment cela peut être possible quand on sait que l'Occident aujourd'hui n'a plus de ressources? Tout ce qu'il faut vient de l'Afrique. La bauxite, le diamant, l'or, partout, ce qu'il faut pour fabriquer les téléphones, par exemple, il faut aller au Congo avec du cobalt. Il y a plein de ressources aujourd'hui. Ils n'en ont pas. Donc, il faut vraiment aller mélanger. Il faut essayer de s'aimer des troubles dans le continent, dans certains pays, pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Et économiquement, on sait combien de fois si l'Afrique est aujourd'hui autonome, est vraiment indépendante d'elle-même, on sait combien de fois ça va être une conséquence énorme pour certains pays européens.
Oui, c'est ce qu'on dit. Non, il ne faut pas les effrayer. Il ne faut pas les effrayer pour dire que ce sera catastrophique pour eux. Non. Il faut les amener à comprendre que ce doit être un partenariat gagnant-gagnant.
Voilà.
Moi, quand je vais dans un magasin pour acheter quelque chose, je sais que le mec, si c'est une baguette, il l'a fabriquée, elle devait coûter peut-être 30 centimes. Il la vend 50 centimes. Mmh. Moi, qu'est-ce que je gagne? Je me suis nourri. Lui, il gagne 20 centimes de plus que la main d'œuvre. Donc, du coup, si on doit se mettre en tête que non, en leur disant faisons ça, on va les braquer contre tout. Non. Nous devons par tous les moyens, faire comprendre à l'Occident que on ne peut pas être riche et les populations sont pauvres. On ne peut pas être premier producteur de café, de cacao, et puis être en train d'importer du chocolat.
On ne peut pas être deuxième producteur au monde de bauxite. Et pour acheter une barre de fer, il faut venir en Occident.
On ne peut pas être comme le Niger, producteur d'uranium, et être incapable de ceci ou de cela. Ça, il faudrait que nos pays puissent le faire. Donc, l'une des batailles de la jeunesse aujourd'hui, c'est de se battre pour obliger nos gouvernants à miser sur l'industrialisation.
D'accord. Alors, on reviendra sur ça dans la deuxième partie de cette émission. On va observer notre première pause musicale. Alors, on va écouter un jeune artiste. C'est un jeune artiste débutant, je peux le dire comme ça. Il fait pas mal pour l'instant. Il a beaucoup de quelques sons qui sont disponibles sur YouTube. José Conté, son tout dernier d'ailleurs, en exclusivité, que les auditeurs de Radio Armada vont découvrir ce soir en featuring avec l'artiste Mi-Homme. On écoute José Conté en featuring avec Mi-Homme. Le titre, on sort pas nous ce soir, un son enregistré et arrangé par Israël. On écoute ça.
Je sais Conté de Paris. Depuis Atlanta. On se bat nous ce soir.
J'ai travaillé toute la semaine pour y arriver au sommet. Je suis fatigué, mais déterminé.
Quand je serai riche, vous serez au Champs-Élysées. Quand je serai riche, vous serez au Champs-Élysées. J'aime pas trop sortir, pour eux je sais gaou. Quand je me fais habiller par Master Freestyle, on me dit, je suis un voyou. On me dit, je suis un voyou. On me dit, je suis un voyou. La beige. Avant de sortir le soir, il faut que je sois bien stylé, comme mon maître Condé de Zamunda, Fanny Adama, Yapi Yapo.
On se bat nous ce soir. Mais qui t'a dit ça? On fait soulever la foule de la tombée du soir. Mais qui a fait et ça? T'arrives avec tes mauvaises idées, bras du noir. Pas le temps quand on fait la fête. Tu parles trop, tu me prends la tête. Tu veux payer toi, tout le monde, le salaire est tombé, tu payes pas tes dettes. J'arrive en décontracté, pas à gauche, pas à droite. On a dans les places et puis c'est ma soeur à tout tuer sur le macossa. J'arrive en décontracté, pas à gauche, pas à droite. Les effets sont bien bombés, j'enlève la steve et on me sert du jack. Merci José Comté de m'avoir invité, on répond au P, on est bien élevé. Tout est organisé, allez DJ, fais-moi ça péter.
Dis-moi Colga, le fils des artistes, lui t'as pas toi frérot.
Mais qui t'a dit ça?
On se bat nous ce soir.
J'ai la carte de crédit et je suis crédible. Je vois certains amis de tes caisses bien clean qui sont d'allocation, qui sont d'allocation, qui sont d'allocation, qui sont d'allocation.
J'ai la carte de crédit et je suis crédible. Je vois certains amis dans des caisses bien clean qui sont des locations, qui sont des locations, qui sont des locations, qui sont des locations.
Ibra le prince saoudien, à la salle majesté Armada, la radio qui fait mal. Moletus, Camus, Black Wish.
Allez Touré,
José, tu m'as amené où là?
Tu gâtes ce soir frérot.
Eh hey, mais y'a trop de monde dans la salle là José.
Y'a du lourd qui arrive.
Ouah, et on fait comment? Je suis déjà en sueur.
L'histoire tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Armada et sur le site www.radioarmada.fr.
Mais voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission avec mon invité du jour, Monsieur Koné Issa Sangaré, avec qui nous abordons la question de la jeunesse africaine, le rôle de cette jeunesse pour le développement de l'Afrique. Avec lui, monsieur Koné, on a parlé un tout petit peu au début, pas un tout petit peu, voilà, puisqu'on a consacré une bonne partie de cette première partie de l'émission à la jeunesse. Alors, la jeunesse africaine, comme certains le disent souvent, disent, selon certains observateurs, est une bombe à retardement. Pour d'autres, c'est un acteur de changement positif.
Une bombe à retardement, je ne dirais pas non. Je veux dire que si nos dirigeants ne prennent pas la mesure de la situation, ne prennent pas leurs responsabilités dès maintenant pour donner du travail et pour donner, comment j'allais dire, de l'espoir à cette jeunesse, bien évidemment, faudra compter ce qu'à un moment donné, elle puisse se révolter parce qu'elle ne va pas rester dans la pauvreté pendant tout le temps.
D'accord.
Voilà. Donc, du coup, c'est normal que comme on appelle, on peut s'inquiéter de la réaction de cette jeunesse dans le futur. Par contre, elle peut être un facteur de changement positif, un acteur aussi de changement positif, si la volonté politique y est. Je vous disais tout à l'heure, il faut que nous puissions transformer nos matières premières chez nous. Ce qui signifie que nos gouvernants doivent miser sur l'industrialisation. Cela a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que nous créerons des emplois chez nous. Les jeunes ne seront plus obligés de prendre le risque de traverser la Méditerranée pour venir à la recherche d'un Eldorado qui n'existe plus. C'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont rien sur le terrain. Nos gouvernants caporalisent tout autour d'eux et de leur famille. Du coup, les jeunes se disent, mais si je reste là et que je meurs, ou alors que je cherche à aller trouver meilleur ailleurs, et que je meurs dans l'eau, c'est la même mort. Donc, ils n'ont plus de choix. C'est ça, en fait. Et c'est un problème auquel les Africains, les présidents africains, les pays africains doivent s'attaquer. Ce problème de l'immigration. Si vous partez actuellement en France, ici à Paris, à la porte de la chapelle,
oui.
Mais c'est un spectacle désolant. Désolant. Dans cet hiver, les jeunes sont couchés à terre, à même le sol, et à peine s'ils trouvent à manger. Et pourtant, on leur avait dit que l'Europe était, comment on appelle ça, un Eldorado pour eux.
Oui.
Donc, il y a ce constat que nous qui sommes ici faisons. Ça, ce doit être un défi pour nos présidents. Le second défi pour que la jeunesse soit un acteur positif, il faudrait que la jeunesse elle-même prenne conscience de ce que c'est à elle d'interpeller ses gouvernants. Mais si nous sommes tout le temps à la solde de nos gouvernants, dès qu'ils te donnent un billet de 5 000 francs ou bien un billet de 10 000 francs, tu oublies toi-même,
ton problème,
ton avenir, parce que tu as à manger pour aujourd'hui et tu ne penses pas à demain.
Et c'est d'ailleurs ce qui est récurrent. Les jeunes, on a vu les différents mouvements de la jeunesse en Afrique qui s'opposent, qui militent. Bah, après, le pouvoir passe pour les corrompre en donnant de l'argent et puis ils se taisent, ils disent rien, ils finissent de manger ça et puis après, ça reste là.
Et puis c'est la routine. C'est-à-dire qu'il est venu et puis la plupart du temps, c'est lors des campagnes électorales qu'ils viennent vers les jeunes. On leur donne un peu d'argent. Eux, on leur donne des t-shirts à porter. Ils courent dans les rues partout. Quand ils sont élus, ils n'ont plus ton temps. Ils ne viennent même plus au village. Ils ne viennent même plus vers les électeurs. Alors que si il vient vers toi et que tu lui poses le problème, un problème véritable, un problème normal, pour la survie, pour ta survie, pour la survie de ta famille, et qu'il intègre ces questions dans son programme, tu auras gagné.
Oui.
Et si ces questions sont effectivement exécutées, comme on dit chez nous, autant apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner toujours du poisson.
Oui.
Donc, l'un des problèmes de la jeunesse, c'est cela. Être conscient, se prendre en charge, te dire qu'on peut arriver. Et cela, il faudrait que les gouvernements mettent en place des fonds. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont des diplômes et qui n'ont pas pu avoir accès à l'administration, il faudrait qu'il y ait des fonds pour qu'ils puissent auto-entreprendre. Je l'ai dit en début d'émission, il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui sont en train de fleurir partout en Afrique. Et les jeunes peuvent y investir.
Le chômage n'est-il pas un frein à la jeunesse pour vraiment s'investir davantage pour le continent?
Oui, mais justement, pour qu'il n'y ait pas de chômage. Parce qu'il faudrait qu'on soit clair. tous les genoux, mais toute la population d'un pays ne peut pas être dans l'administration. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier les secteurs d'activité. Donner les moyens aux jeunes pour qu'ils puissent, entreprendre. Alléger, le fisc. C'est-à-dire, c'est ça aussi, c'est un blocage pour nos PME. Nos PME, c'est-à-dire que souvent, nos gouvernants les étranglent avec les impôts. De telle sorte qu'ils n'arrivent plus à recruter. Alors que si on avait des emplois, des PME, des PMI, dont l'imposition tienne compte de la réalité économique du pays, ça pourrait leur donner l'occasion de pouvoir, recruter des jeunes qualifiés qui puissent travailler. Mais si l'État va les étrangler avec les impôts, bien évidemment, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a les charges patronales à payer. Tous ces impôts qu'ils doivent payer tout le temps, effectivement, ils ne peuvent pas. Par exemple, j'ai donné une idée comme ça. Si on fait une exonération d'imposition sur toutes les, les PME qui emploient 10 personnes, et à partir de 20 personnes, ils sont imposés sur les 10 personnes. Mais ils vont continuer à créer du travail.
Bien sûr.
Voilà. Si, par exemple, on crée des emplois jeunes, des emplois, j'allais dire, de qualification, c'est-à-dire que le jeune, quand il sort de l'université, ou bien d'une grande école, ou bien d'une école de formation, l'État peut demander à des entreprises de les prendre en contrat de qualification. C'est-à-dire, il travaille, mais il n'est pas imposable. Et donc, parce que souvent, quand les jeunes s'en vont demander du travail, on leur demande la qualification ou bien l'expérience. Mais si tu n'as jamais travaillé, tu as ton diplôme, comment tu peux prouver ton expérience? Alors que s'il y a ce type de contrat de qualification, qui est un contrat qui va être en transition entre la sortie de l'école et puis le boulot en plein temps.
D'accord.
Moi, je propose ça parce que ça donnera l'occasion aux jeunes d'affronter le monde du travail et après de se prendre en charge ou de trouver un contrat plein temps dans une autre boîte ou bien se mettre à son propre compte.
D'accord.
Voilà, aujourd'hui, il y a des ingénieurs qui ont fini, qui n'ont pas de travail, alors qu'ils peuvent créer une boîte pour pouvoir subvenir à certains besoins dans certaines boîtes.
Alors, plein de jeunes aujourd'hui diplômés dans le continent africain. Mais la question encore de plus que j'ai envie de vous poser, Monsieur Koné, ce départ massif de la jeunesse africaine aujourd'hui vers l'Occident en empruntant des routes, je ne sais pas comment je vais appeler, très difficile, la mer, le désert, ne fut-elle pas leur responsabilité pour le continent où c'est la misère ou le chômage pour certains qui cause ce départ?
Je pense que je viens d'aborder cette question tout à l'heure là. J'ai dit, les jeunes, s'ils n'ont pas de boulot, s'ils n'ont pas de travail dans nos différents pays, et qu'ils sentent qu'ils peuvent perdre la vie, ils peuvent mourir de faim. Et ils se disent, mais si je quitte Conakry, je passe là jusqu'à j'arrive au Maroc ou bien en Libye, voilà. Je vais souffrir là. Après, peut-être, je vais prendre une embarcation de fortune. Je vais arriver sur les côtes espagnoles ou bien... De toute manière, je vais me débrouiller. Si j'arrive, je suis arrivé. Si je meurs dans la Méditerranée, de toute manière, c'est la même mort. Je serai mort en Guinée, mais je serai mort en Côte d'Ivoire. Voilà le problème. C'est pour ça que je dis, il faut créer du travail pour les jeunes, pour les maintenir là-bas. Sinon, depuis tout le temps que cette situation de traverser la Méditerranée fait des morts, aujourd'hui, là, ce n'est plus une question de télévision seulement. Il suffit d'un simple téléphone. Et tout le monde voit les bateaux qui chavirent tout le temps. Mais ils viennent toujours. ils voient la mort, ils voient leurs amis à la mort, ils sont assis à Abidjan ou bien à Conakry, ils voient comment leurs amis se noient, mais ils continuent de venir. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Et ce sera à nos États de prendre conscience de ce problème. Ce sera à eux, eux seuls, de dire aux jeunes, tu veux faire quoi? Et c'est pour ça que j'ai parlé de la mise en place de certains fonds jeunesse.
D'accord.
Pour, comme ça, celui qui veut être mécanicien, on le forme. Celui qui veut être, j'allais dire...
Que chacun soit que formé chacun, du métier qu'il souhaite
voilà, et qu'il puisse l'exercer. Et qu'il puisse l'exercer au pays.
D'accord. D'accord. Alors, comme on parle de la jeunesse, des jeunes, Monsieur Kondi, on va faire...
Kone.
Monsieur Kone, pardon. Voilà. Merci. Excuse-moi. On va parler, on va écouter une jeune chanteuse du côté de Grenoble. Elle est d'origine guinéenne. Elle s'appelle... avant cela, on va essayer de voir si on peut, puisqu'elle était prévue, qu'on l'appelle et qu'elle-même se présente aux auditeurs de la radio Armada. Je ne sais pas, avec mon ingénieur de son, le réalisateur de cette émission, si tout est OK. Est-ce que Israël, ça va de ce côté? Allô? Allô?
Allô, bonsoir.
Bonsoir, Juliette Haba. Bah, c'est le nom que moi je connais. Je ne sais pas sur votre nom d'artiste. Comment vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Radio Armada et auditrices, bien sûr?
Bah, pour commencer, je vais commencer par saluer tout le monde d'abord.
D'accord.
Je me présente. Mon vrai nom, c'est Juliette Haba.
Oui.
Mon nom d'artiste, c'est Feeling Queen et je chante avec un ami à moi.
D'accord.
Que voilà quoi, bref, on est. Voilà.
D'accord. Quoi. Alors, Juliette.
Un ami à moi.
Alors, aujourd'hui, on va écouter une de tes chansons. Tu es une artiste débutante. Vous évoluez en solo. C'est votre passion, la musique. Parle-nous oui. de la musique qu'on va écouter tout à l'heure.
Cette musique, ça s'appelle Feeling Guerrier. C'est le nom du groupe.
D'accord.
Vous voyez? Donc, du coup, on a dit feeling guerrier is back.
D'accord.
Voilà, ça veut dire feeling guerrier de nouveau, quoi, dans les bacs.
Alors, ouais. ça parle de quoi? Qu'est-ce qui est chanté dedans?
Ça parle de, comment on dirait? Excusez-moi, donnez-moi une minute.
Allez-y, rapidement. Israël, est-ce que le son, c'est prêt?
Ça parle de, comment on dirait? Il faut être reconnaissant dans la vie, quoi.
D'accord, ça parle de la reconnaissance des bienfaits, c'est ça?
Oui.
Alors, je précise...
Oui, de la reconnaissance. Mmh. Il ne faut pas être quelqu'un de bad, en fait.
D'accord, quelqu'un de bad. En fait, vous êtes une fille engagée, on sent dans votre façon de parler, c'est ça?
Voilà, moi, je m'appelle Feeling Queen, je suis forestière.
D'accord.
Je viens de la Guinée-Conakry.
D'accord.
Voilà. Mon village, c'est Zérekore, Bressedrou, Paris, s'il y a certains qui connaissent. Mmh. Voilà.
Bah, écoute,
donc, du coup...
écoute, Juliette, il y a plein de Guinéens aujourd'hui qui sont connectés là sur la page Facebook de Radio Armada. Nous avons pas mal d'abonnés de ce côté. Est-ce que tu peux leur faire un petit coucou en télé dans votre langue? Mais vas-y, c'était pas prévu, hein. C'était pas prévu, mais on a hâte, vraiment, on veut entendre ça. Allez, vas-y, Juliette, galé. Galé, ben voilà.
Kato palé, kaik paléman.
Voilà.
Galé, kapopolo, lelem. Gagrenob.
Ben voilà, ça c'est en Kpelé, en langue Kpelé, une des ethnies guinéennes qu'on retrouve du côté de la Guinée forestière dont vous êtes d'origine, vous Juliette. Je précise que vous êtes du côté de Grenoble et si tout va bien, on ne sait pas quand, en tout cas il y aura quelque chose qui sera prévu dès qu'on aura la possibilité de vous voir un jour ici dans les studio de Radio Armada pour parler de toi, de ta musique, n'est-ce pas?
Oui.
Parfait. Donc, on essaiera de caler ça dans l'année prochaine. Hein. Voilà, à partir, on verra bien selon les disponibilités puisque vous êtes hyper chargée. Vous êtes coiffeuse aussi, non?
Oui, je suis coiffeuse, oui.
Donc, à côté
je suis
de...
coiffeuse, je fais la danse, je chante aussi. Ouais, voilà, ben... je suis artiste, quoi, en fait. Je suis
vous,
artiste,
vous faites tout, quoi. Vous êtes comme un couteau suisse, comme on le dit souvent.
Voilà.
Ben, écoute...
Moi, je suis tranchant, en fait. Je suis tranchant.
Alors, on va écouter cette chanson. Juliette, merci d'avoir répondu à cet appel et de t'entendre sur les antennes de Radio Armada.
Oui.
Et on se dit à très bientôt. On va découvrir cette belle chanson que tu nous as envoyée pour faire découvrir ça aux auditeurs et auditrices de la radio.
D'accord, voilà. Merci.
Allez, merci à
et
toi.
Et en fait, n'oublie pas que c'est un son qui a été fait dans un mini-studio, vous voyez. Donc du coup...
D'accord, d'accord. Ben écoute, ça va, on va avec les moyens de bord. Et c'est un ingénieur, ça tombe bien, c'est un ingénieur de son qui va le diffuser. Il nous fera ses retours. Il a son studio ici, dans le même local que la Radio Armada, un studio musical de haut niveau. Et puis... comment on peut le dire, qui sait si un jour vous aurez à travailler ensemble. Voilà. Allez, merci, merci beaucoup à toi, Juliette.
Merci. Bon, est-ce que je pourrais écouter?
Bien sûr, tu restes, tu gardes la ligne, tu vas écouter. Israël, c'est parti, vas-y.
Ouais.
On garde le calme, hein. Vas-y.
Okay. Sénégal
music.
Abloclat,
au cœur de l'histoire, tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Armada et sur le site www.radioarmada.fr.
Radio Armada, on déniche, on donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Voilà la découverte du jour. Ben voilà, je vole un peu le concept de celui qui le fait très souvent, qui déniche, qui cherche les nouveaux talents. Lui, c'est Eric Durand. Ben voilà, j'espère qu'il est d'accord avec moi. Voilà, avec ça. Allez, Juliette, ça va? Tu as écouté le morceau?
Ouais, tranquille, au calme, je suis posée.
Ben parfait, ben écoute, tu sais, tu peux passer quand tu veux, en tout cas dès que tu as la possibilité de passer chez nous. Et puis, les auditeurs et auditrices de la radio auront le privilège et le plaisir de te voir dans les locaux de la radio.
D'accord, il n'y a pas de problème.
Allez, merci à toi. Et puis, je sais pas, tu veux faire un petit coucou?
Comme on dit, Inch'Allah, la famille, on va se retrouver. On va se retrouver.
Allez.
Feeling guerrier, is back.
Allez.
À bientôt, la famille, Inch'Allah.
À bientôt, merci beaucoup.
Ouais, merci à vous aussi.
Allez, bye.
Merci.
Bye. Alors, nous, dans la dernière ligne droite de cette émission avec l'invité du jour, Monsieur Koné Issa Sankara. Monsieur Koné, maintenant, on va essayer de... On a planté le décor à l'entame de cette émission. On a parlé certaines problématiques de non seulement du continent, mais des cadres, mais aussi de la jeunesse africaine, qui est le thème principal de cette émission aujourd'hui. Quelles doivent être les actions ou les véritables actions à mener pour aider la jeunesse africaine à transformer ce continent qui peine à sortir de l'ornière?
Bien, je vous remercie encore une fois. Comme je vous l'ai dit, pour que la jeunesse africaine puisse véritablement transformer l'Afrique, comme vous le dites, il faut que nous ayons des pays démocratiques. Mmh. Aucun développement, aucune transformation, aucune production de richesse ne peut se faire sans la stabilité dans le pays.
Tout à fait.
Tant que le pays est instable, vous avez des problèmes déjà pour que vous puissiez investir. Les investisseurs étrangers ne viendront pas non plus tant que le pays n'est pas stable. Donc la stabilité est une exigence pour le développement. Et pour que les pays soient stables, comme je l'ai dit en début, il faudrait que nos dirigeants respectent nos lois fondamentales et les lois organiques qui en découlent.
D'accord.
On ne va pas accepter tout le temps que quelqu'un pense qu'il a la science infuse, quelqu'un pense qu'il est le plus intelligent de tout le monde et qu'à partir du moment où lui n'est pas là, ce sera le chaos. On ne peut pas accepter ça. Si en Côte d'Ivoire, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir avait choisi M. Amadou Gon Coulibaly, qui malheureusement nous a quittés dans les conditions qu'on sait, et que le président de la République dit, c'est un cas de force majeure, donc je n'ai pas eu le temps de préparer quelqu'un, je dois me présenter. Mais il insulte sa formation politique. Ça veut dire qu'à part lui, et Gon, il n'y avait personne là-bas pour pouvoir diriger ce pays-là. Ce qui n'est pas normal. Ça l'a amené à violer la Constitution et ça a amené des troubles. La Côte d'Ivoire va peiner à se relever parce que la fracture est devenue très forte.
Oui.
À la suite de ça, M. Alassane Ouattara a préféré, au lieu de chercher à stabiliser le pays, au lieu de chercher, parce que tu me parles de quelles sont les actions pour la jeunesse pour qu'elle puisse se transformer.
Mmh.
En ce moment, Alassane Ouattara devait penser à l'intérêt supérieur de la nation. Et qu'est-ce qui lui était demandé? Juste réformer la commission électorale indépendante. Juste ça. Parce que dans une discussion, tu donnes et tu reçois.
Oui.
S'il avait réformé la commission comme l'opposition, dans son écrasante majorité, l'avait demandé, et que peut-être même qu'il s'imposait en tant que candidat, et que nous étions conscients qu'avec les conditions électorales, là, les conditions mises en place pour la CEI, peut-être que l'opposition aurait participé aux élections avec lui.
D'accord, oui.
Ça, c'est l'une des choses. Mais si nos dirigeants eux-mêmes ne respectent pas les institutions, non seulement nationales, mais africaines, parce que nous avons vu ici la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rendre des arrêts concernant la CEI, concernant la situation de la Côte d'Ivoire. Mais ça n'a jamais été respecté par le pouvoir en place. Comment vous voulez que l'Afrique se développe si nous sommes incapables de respecter les décisions prises par nos institutions africaines?
D'accord.
Vous voyez la France contester une décision de la Cour européenne des droits de l'homme? Vous voyez la Belgique contester ça? Non. Dès que c'est rendu, ça devient exécutoire. Et c'est ce que nous, Africains, nous peinons à faire. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, qui sont des diplômés, qui sont, doivent transformer cette mentalité qui fait que quelqu'un pense que il peut pas avoir de développement, il peut pas avoir d'avancée sans lui. Personne n'est indispensable. Tout le monde est important, hein, mais personne n'est indispensable.
D'accord. Alors, M. Kony, pensez-vous que miser sur la jeunesse africaine, c'est miser sur l'avenir du continent? Quelles sont les aspirations de la jeunesse aujourd'hui en Afrique?
Mais si on ne mise pas sur la jeunesse, on va miser sur qui? On va miser sur les vieux. Leur avenir est derrière eux. Donc, c'est les jeunes qui ont leur avenir en main. C'est eux-là, c'est sur ceux-là que l'Afrique doit miser. C'est pour ça que je parle de renouvellement de la classe politique et le renouvellement de toutes les classes. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que Alpha Condé va pouvoir proposer encore à la jeunesse guinéenne qu'il n'a pas pu faire pendant deux mandats?
Rien.
Qu'est-ce que Alassane Ouattara va pouvoir proposer encore à la jeunesse ivoirienne c'est qu'il n'a pas pu faire pendant deux mandats, 10 ans au pouvoir? Non. Alors, il faut que l'Afrique mise sur sa jeunesse.
D'accord.
Miser sur la jeunesse, c'est d'abord lui apporter la formation adéquate. Faire de nos écoles des lieux de formation, d'élite. Et puis, trouver du travail à nos jeunes. Et c'est pourquoi j'ai proposé tout à l'heure les contrats intermédiaires. Le jeune, il sort de l'école. L'État peut ne pas employer tout le monde. Ça, c'est pas exact. Mais si l'État fait des usines, fait, des travaux, et qu'on donne ce travail, si l'État doit construire, genre, une route, et que l'État s'en va chercher une société chinoise, ou bien une société française, et eux, ils vont venir employer encore les jeunes chez eux. Pourtant, on peut bien former des jeunes à pouvoir faire ce travail. Comment on peut imaginer que des gens quittent chez eux et ils sont les plus grands pourvoyeurs de travail que les nationaux? On donne les marchés de gré à gré à des étrangers.
Est-ce qu'il y a la confiance entre la jeunesse ou la jeunesse africaine des différents pays et les élites, c'est-à-dire le pouvoir qui sont à la tête des différents pays?
Non, moi je pense que non, il n'y a pas de confiance.
Confiance, comment on peut aider? Parce que ce n'est pas le talent qui manque, ce n'est pas le niveau qui manque. Nous avons des jeunes très talentueux qui ont un diplôme vraiment rien à envier au diplôme d'ici, même si on le dit souvent ou on le fait souvent, on ne respecte pas nos diplômes ici en Europe, mais pourtant... Pratiquement, on a de quoi être fier et on a des ressources.
Oui, mais c'est la volonté politique. C'est la volonté politique. Il faut que nos dirigeants se disent que certains de nos compatriotes sont venus ici, ils se sont formés. D'autres sont partis en Angleterre, d'autres sont partis dans d'autres pays qui sont formés et qui ont la compétence dans certaines matières.
Oui.
Ceux-là, il faut leur donner la possibilité de rentrer et de travailler. Au lieu de recruter un ingénieur, je ne sais pas en quoi, qui est français, tu vas le faire travailler en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'ingénieurs ivoiriens qui sont compétents en la matière. Au lieu de chercher, ceci ou cela à l'extérieur, il y a des compétences.
Bien sûr.
Il faut juste les exploiter. Il faut juste les exploiter. Si on ne les exploite pas et qu'on est obligé de se rabattre sur l'Occident, mais finalement, on forme nos jeunes pour rien.
Bien sûr, c'est là l'un des problèmes, hein, cette question de confiance. On forme quelqu'un, mais après, pas de confiance pour lui les responsabiliser, en gros.
On forme des gens qui finissent et qui finalement, j'en connais plein qui sont diplômés et qui sont ici, et qui sont partis postuler en Côte d'Ivoire, qui n'ont absolument rien eu, qui sont revenus et qui après se retrouvent à faire des petits boulots, le temps de se trouver dans une bonne situation avant de chercher dans son domaine.
Mais vous, qu'est-ce qui explique ça, cette la non-confiance entre les élites et les jeunes africains?
Hop, moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication à donner. Je pense qu'ils sont plutôt, ces élites-là, ces gouvernants, ils sont plutôt des sous-préfets, des sous-préfets de la France. Et ça, c'est que des sous-préfets. Donc, du coup, ils exécutent ce qu'on leur dit de faire. Les Français, ils forment ici, quand leur marché est saturé, ils les font partir en Afrique, dans les pays francophones, pour qu'ils aient travaillé. Apparemment que nous, jeunes, nos parents, nos amis, ils ont la formation adéquate, qualifiante, et ils sont assis à la maison.
Alors, nous voyons aujourd'hui un jeune qui s'investisse vraiment pour le continent africain, qui fait des rencontres, qui rencontre des jeunes, qui se déplace, va dans les différents pays africains. Je veux parler de Kémi Séba. Pensez-vous que son combat, c'est un combat noble pour le continent et que les jeunes doivent le suivre?
Moi, je n'adhère pas à son combat. Je n'adhère pas à son combat pour plusieurs raisons.
D'accord.
D'abord, nous tous, nous sommes conscients, et je l'ai dit en début d'émission, nous sommes conscients qu'il faut que la zone de l'UEMOA ait une monnaie unique. Sur ce point-là, on est d'accord. Kémi Séba, il a été l'une des premières personnes à dire ici que Laurent Gbagbo était un tyran, un dictateur et tout. Et que c'est plusieurs années après, il va venir dire non, c'est faux. Pourtant, il a été l'un des propagandistes. Il vient encore de quitter la Côte d'Ivoire tout dernièrement. Je ne sais pas s'il était vraiment en Côte d'Ivoire parce que.
Il y était, oui.
Oui, j'ai vu des images. Puis après, ça a sorti qui n'a rien à voir avec ce qu'il a vu. C'est pour dire que ce monsieur, moi, je ne le trouve pas stable. Je ne le trouve pas quelqu'un de... Et puis, ce combat qu'il fait là, qu'est-ce que ça apporte à la jeunesse ivoirienne, africaine? Ça apporte quoi? C'est pour toujours parler de Kémite, de France CFA. Mais les Kémites là, ils n'existent plus. Aujourd'hui, là, nous sommes passés par beaucoup de stades.
Mais pourtant, il commence à être le chouchou de une référence aujourd'hui pour cette jeunesse africaine. Hein.
Oui, mais c'est sûr. Je ne dis pas, même si moi-même je me lève, je fais ce combat, là, vous allez me suivre aussi. Vous allez me suivre, mais est-ce que j'ai les moyens d'arriver à ça? Est-ce que tu as quel moyen il met à la disposition des jeunes pour essayer de faire aboutir ce combat? Ça fait combien de temps qu'il bavarde? Donc, ça, ce n'est pas un combat que je soutiens. Pour moi, ce n'est pas du panafricanisme. Voilà, pour moi, ce n'est pas du... Moi, j'aurais aimé, dès le début, quand il a commencé ce truc, il était ici en France. Il était français. J'aurais été à sa place, j'ai renoncé à ma nationalité française immédiatement et je m'en vais prendre la nationalité béninoise. Mais il n'a pas fait. Donc, on ne peut pas dire quelque chose... Et puis faire le contraire, ça, je n'adhère pas à ça.
D'accord. Alors, 17h passées de 46 minutes, je signale que juste après cette émission, il y aura, je pense bien, l'émission de notre ami Jean-Pascal Bonsignor qui viendra faire l'émission controverse. Mais d'ici là, M. Kony, comme on tend vers la fin, on va ici encore de se reposer un peu en écoutant une chanson, un artiste, un jeune artiste aussi. Aujourd'hui, on ne fait que découvrir les talents. Il s'appelle Banga Boss El Haïti. Il a passé ici à Radio Armada dans l'émission Au cœur de l'histoire. On va écouter encore un de ses morceaux, son dernier d'abord, le titre Banga Boss.
Banga. Crois qu'elle veut croquer, j'ai pas le temps. Négro, je suis pressé. En showcase, mon gars, je suis booké. Monte le son, je vais les déjeuner. Boss, 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 boss.
bop bop boss, 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 benga benga boss, 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 bop bop boss, 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 dans ma porte, j'ai caché le deal, en showcase, ces salauds me pissent, je dois rester à l'écart de Gucci, parce que je suis trop à fond de ça, c'est décidé. J'prends des risques maintenant, oui c'est décidé. Je prends mon temps maintenant, dis à mon prof que je fais du bif maintenant, dis à ma prof que je suis pas devenu clochard. Là-bas j'irai, puis je reviendrai. Tu veux la guerre, j'espère que t'es prêt. Tu veux pas perdre, mais quand tu joues tu gagnes pas. Il arrête les cours pour squatter dans des tours. Ils veulent pas passer mes sons parce que pour eux j'suis pas connu. Pas du genre à me vanter, prouver je sais ce que je veux. C'est des tonnex. Man t'es tombé bien bas, je fais du bruit pour faire parler les médias. Benga, boss, j'crois qu'elle veut croquer. J'ai pas le temps, négro j'suis pressé. En showcase, mon gars j'suis booké. Monte le son, j'fais les déchaînés. Boss, 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 bo bo boss, boss, boss. Benga, benga, boss, 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 bo bo boss, 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 benga.
Radio Armada et sur le site www.radioarmada.fr.
17h passées de 49 minutes, voilà, 10 minutes nous séparent de la fin de cette émission avec mon invité ce soir sur ce plateau, dans cette émission au cœur de l'histoire, dans son dernier numéro de l'année. Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec Monsieur Kony Issa Sankara. Je rappelle qu'il est juriste de formation, responsable politique au sein du parti Front Populaire Ivoirien. Avant de nous dire un petit mot sur l'actualité politique ivoirienne aujourd'hui, Monsieur Kony, la question est de savoir, les jeunes doivent continuer aujourd'hui à se mobiliser, à investir à l'espace public, social et politique pour se faire entendre leur voix, mais comment et de quelle manière, selon vous?
Bien, merci. Oui, les jeunes doivent continuer à se faire entendre. De toute manière, à part la violence que le régime a fait abattre sur les jeunes qui manifestaient, le mot d'ordre, c'était une désobéissance civile. La désobéissance civile, ce n'est pas la prise des armes, mais le pouvoir vite fait de qualifier ça comme une tentative de sédition ou bien une tentative de coup d'État. Ce qui n'était évidemment pas la même chose, ce qui n'était évidemment pas vrai. Aujourd'hui, les jeunes doivent donner de la voix. Maintenant, la répression, on sait qu'elle va être sauvage. Parce que quand on a vu les images, les atrocités qui ont suivi les premiers jours de la désobéissance, on s'est dit, mais comment des gens peuvent faire ça? Et quand on voit les forces de l'ordre qui encadrent ceux qui ont des machettes pour venir agresser ceux qui sont en train de manifester librement, ça énerve. Ça énerve. Moi, pour finir, je voudrais dire... Et comme on parle de jeunesse, et je l'ai dit pendant toute l'émission, Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait stabilité. Pour qu'il y ait stabilité, il faut qu'il y ait paix. Aujourd'hui, nous avons en Côte d'Ivoire plusieurs opposants politiques qui sont en prison, dont le plus grand, le plus célèbre des opposants en Côte d'Ivoire, le président du Front populaire ivoirien, le président Pascal Afingessa. Je demande solennellement, et je profite de votre micro, pour dire au régime d'Abidjan que pour que le pays soit véritablement un havre de paix et que les activités économiques puissent reprendre de plus belle et que les Ivoiriens ne se regardent plus en chien de faïence, il faut libérer les opposants politiques. Il faut libérer Pascal Afingessa. Il faut libérer... tu as parlé de société civile tout à l'heure. La jeune fille Pichiri Gbali, qui était la porte-parole de la plateforme de la société civile. Dès qu'elle a fini de parler, ils sont allés l'attraper, ils l'ont mise en prison. Elle est encore en prison.
Et jusque-là, oui.
Jusque-là, elle est en prison. Le jeune homme, quoi, Justin, qui était à l'époque le responsable de la jeunesse du FPI quand la direction était en prison. Lui, il est encore en prison. On ne sait pas quelle est la menace que quoi peut... Je ne sais pas comment expliquer ça. Quelle menace il constitue? Quelle menace il constitue pour le régime d'Abidjan? Pourquoi on le maintient en prison? Moi, je pense que on a besoin d'un pays stable. On a besoin d'un pays qui se mette au travail. On a besoin des jeunes qui travaillent. On n'a pas besoin de jeunes qui prennent des machettes pour aller découper d'autres jeunes.
Alors, la dernière question, M. Kone, faut-il craindre une explosion sociale aujourd'hui en Afrique ou entrevoir une révolution bénéfique pour le continent?
Il faut une révolution, pas une révolution, mais une révolution à tous les niveaux, au niveau économique. Il faut une révolution au niveau du numérique. Il faut une révolution pour l'industrialisation. Il faut une révolution dans les mentalités. Il faut une révolution pour éviter que les gens soient toujours dans la corruption. Il faut faire cette révolution pour que les jeunes aient du travail. Il faut faire cette révolution pour que nous ayons un espace économique sain. Il faut faire cette révolution pour que les présidents en exercice ne pensent pas qu'ils sont inamovibles, qu'on ne peut pas les changer, qu'ils sont les seuls détenteurs du savoir et tout est inclusif pour eux. Il faut cette révolution pour que d'autres personnes puissent, par leur talent, par leur savoir-faire, faire avancer l'Afrique. J'en connais beaucoup de Guinéens qui ont beaucoup de talent. J'en connais beaucoup d'Ivoiriens, j'en connais des Maliens, mais ces talents sont sous-exploités. Parce que nous sommes toujours sous le joug de cette colonisation. Et tant qu'on n'a pas défait ces liens-là, tant qu'on n'a pas enlevé ces chaînes, nous serons toujours à la traîne du monde. C'est pour ça que je demande que le président, que nos présidents arrêtent d'emprisonner à tout va, et qu'ils arrêtent de faire tuer les populations. Les populations africaines sont jeunes. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes près de 200 millions. Nous avons près de 200 millions de jeunes qui ont entre 14 et 25 ans. Oui. Donc c'est la population la plus jeune du monde. Oui. Donc il faut maintenant prendre les mesures adéquates pour trouver quelque chose à ces jeunes, pour trouver quelque chose à toutes ces filles, à tous ces hommes, à tous ces garçons, pour que l'Afrique puisse prendre un essor vers le développement et puisse être, comme on appelle ça, compétitif, attractif et pouvoir discuter avec les autres continents d'égal à égal. C'est ce que le défi de notre jeunesse. Nous ne voulons plus qu'on nous regarde comme des sous-hommes, comme des inférieurs. Nous voulons maintenant discuter avec tous les continents. Le continent africain, du Maghreb jusqu'à la Corne de l'Afrique, jusqu'en Afrique du Sud. Nous devons regarder l'Europe et dire, on n'est pas des sous-hommes. Nous devons regarder l'Amérique pour dire qu'on n'est pas des sous-hommes. Nous devons regarder l'Asie pour dire qu'on n'est pas des sous-hommes. Je dis bien de l'Algérie jusqu'à l'Afrique du Sud, tous ces pays, tous ces continents-là, tous ces pays-là, si nous nous mettons ensemble, déjà on a l'Union africaine, c'est là-bas qu'il faut prendre les décisions. C'est là-bas qu'ils doivent prendre les décisions. S'ils sont tous ensemble, s'ils acceptent tous ce combat que nous menons là, personne ne pourra les empêcher. C'est eux qui ont besoin de nous, ce n'est pas nous qui avons besoin. C'est nous qui avons les matières premières, c'est nous qui avons le bauxite, c'est nous qui avons l'uranium, c'est nous qui avons le cacao, c'est nous qui avons le café, c'est nous qui avons tout, le cobalt. Donc, ils ont plus besoin de nous que nous ayons besoin d'eux. Discutons entre nous d'égal à égal désormais. C'était mon dernier mot.
Alors, ce n'est pas le dernier mot. Moi, je vous fais dire en tout cas notre mot. Une Afrique unie et solidaire. L'espoir est porté sur la jeunesse africaine. Monsieur Kone, votre dernier mot va être un message, un appel à l'endroit de cette jeunesse.
Bien, merci. Chers amis africains, d'ici et d'ailleurs, chers amis africains du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, le destin de l'Afrique est dans nos mains. C'est à nous de nous lever pour écrire une nouvelle page de notre continent. Nos devanciers ont pu obtenir les indépendances politiques, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Notre combat résidera dans l'obtention des indépendances économiques. Et cela passe par l'union de tous nos États. Dites à tous nos présidents, le sort de l'Afrique est entre leurs mains. Il ne faut pas qu'ils se laissent manipuler encore comme au temps de la colonisation. C'est un temps révolu. Et il nous faut maintenant reconstruire l'Afrique. J'ai dit reconstruire parce que l'Afrique était déjà construite avec ses valeurs. Avec ses valeurs. Nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas besoin de quoi que ce soit. L'Afrique était déjà riche de cette culture. Ils sont venus, ils nous ont imposé un certain nombre de choses. Maintenant, il nous faut reconstruire cette Afrique. Je cite, l'industrialisation doit être le cheval de bataille de tous les pays africains, de telle sorte que nous puissions transformer nos produits en Afrique. D'accord. Et que les jeunes arrêtent, je leur dis ça solennellement, que les jeunes arrêtent de se faire manipuler par les politiques et qu'ils arrêtent de se battre à la machette, se couper des têtes avec lesquelles ils jouent au ballon. Ça ne doit plus exister en Afrique. L'Afrique doit devenir un continent où les idées doivent s'affronter. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit plus de faire la guerre. De faire la guerre. On a assez fait la guerre dans nos différents pays. L'Afrique doit s'unir contre le terrorisme. Parce que tant qu'il y aura la peur de ce terrorisme en Afrique, que ce soit en Afrique, au Maghreb ou bien en Afrique subsaharienne, on n'a pas les moyens de les combattre normalement. Mais si nous sommes unis, nous pourrons les contrarier. Ça, c'est un combat aussi qu'il faut mener.
D'accord.
Maintenant, je voudrais vous remercier de l'invitation et que je reste toujours à votre disposition chaque fois que besoin se fera sentir pour donner mon avis sur les questions que vous me proposerez.
C'est à nous de vous remercier, M. Kone. Grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Voilà, chers auditeurs de Radio Armada, ce message met un terme à cette émission pour cette année. Voilà, l'émission Au cœur de l'histoire, c'est son dernier numéro de l'année. On se retrouvera le mercredi 6 janvier 2021 pour une nouvelle année. Et donc, je souhaite par anticipation bonne et heureuse année à tous les auditeurs de Radio Armada, à tous les abonnés de cette radio et de tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Un grand merci à la direction qui a porté confiance à moi pour animer cette émission dans cette radio. Donc merci à la direction, merci aux réalisateurs depuis le début qui sont toujours avec moi, qui préparent tout ce qu'il faut pour vous donner un travail vraiment bien accompli. Merci à vous les auditeurs également qui nous fait grandir tous les jours. Merci à tous les soutiens. Merci à Aliou Kondé, le parrain de cette émission, à Baba Bangoura, le parrain également de cette émission. Merci également à José, merci à toutes ces personnes franchement qui ont contribué à la réussite et à la tenue de cette émission jusqu'à aujourd'hui. Franchement, je vous tire un chapeau à Kaloum Kamara, la liste elle est longue, je ne vais pas citer tout le monde. Merci à Eric Durand qui a toujours été là, juste il a manqué deux émissions de, voilà, il a juste manqué deux émissions, sinon il était là tous les jours pour suivre cette émission en direct dans le studio. Et voilà, merci à Mohamed Seyd Kamara depuis la Guinée. Si vous voyez le petit flyer de l'émission qui s'occupe de ce côté, vraiment c'est toute une équipe hein, autour de cette émission au cœur de l'histoire sur Radio Armada. Voilà, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. Merci à Fanta Sano, Tofawek Cheveux. On se retrouve donc le mercredi 6 janvier à la même heure, à la même radio et à la même place ici. Je ne crois pas pouvoir changer de place, mais je resterai toujours là. Mais voilà. On se quitte avec cet artiste, Nava Boss, qui a été voilà, l'un des invités aussi de cette émission. Un jeune artiste qui vit du côté de Lille. Quant à moi, je vous souhaite bonne écoute et voilà, restez des nôtres. Tout de suite, vous aurez
l'émission controversée.
Mais pourquoi tu ne me fais pas confiance? J'ai déjà mes mentis, tu sais. Parfois tu doutes de moi. Arrête d'écouter les gens. C'est toi ma princesse. C'est moi que t'as dit oui. C'est moi que t'as dit oui. T'es déjà validé. L'amour n'a pas besoin pour gâcher vérité. Dis-moi déjà si tu m'aimes. Maintenant, comme ça on va pas perdre les temps. Ça dépend l'amour que je vais te donner. Mais tu comptes beaucoup pour moi. Mais tu comptes beaucoup pour moi. Mais tu comptes beaucoup pour moi.
Radio Armada.fr jusqu'au bout.